préparé quelques documents, si vous voulez les garder pour savoir qui je suis. Hein,
Merci.
Hop. Pas grave. Alors. Oui, j'ai quand même été, parmi tous les Brestois, j'ai quand même été retenu. Voilà. C'est moi ici.
Ouais. D'accord.
En plus, celui qui a fait le reportage, il s'est trompé, je ne suis pas chaudronné, je suis tourneur sur métaux.
Alors bon, ah bon.
Ceux qui me connaissent, ils ont dû rigoler, sûrement.
Bon, vous allez pouvoir corriger ça alors.
Oh, mais ça, non, c'est pas grave. Bon, allez.
La grande maison. Histoire d'Arsouille. À retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve. En raccourci.
Eh ben, je suis Maxime Wanich et je suis de parents espagnols. Ses parents, donc mes grands-parents et ma mère ont quitté l'Espagne sous le régime de Franco parce que c'était des républicains communistes et craignant pour leur vie, bon, ben, ils ont pu quitter l'Espagne. Et pour eux, c'était plus facile de venir en Algérie parce qu'ils étaient sur la côte méditerranéenne. Donc, ils sont venus en bateau pour venir en Algérie parce que c'était plus facile de venir en Algérie par rapport à la côte atlantique où ils sont allés plutôt vers Bordeaux et puis même ici. Moi, j'ai connu l'histoire de mon grand-père. Moi, le temps que j'ai pu le discuter avec lui, hein, c'était un républicain. Et tout le temps que je l'ai connu, il n'a pas parlé français en Algérie. Il n'a pas parlé français. Je parlais en espagnol avec lui. Hein, parlais en espagnol. C'était un poète. C'était un poète. Et ils étaient trois frères. Trois frères. Lui, il a réussi à partir en Algérie. Il avait un frère qui était avocat, qui est parti au Mexique, qu'on n'a jamais eu de nouvelles. Et il avait un autre frère, et les deux autres frères sont morts sous la torture de Franco. Donc mes parents étaient socialistes très très avancés, pour ne pas dire communistes, en Algérie. Hein, et ma mère disait toujours qu'elle ne voulait pas être enterrée comme une chienne. Et c'est marrant, avec une carte de gauche, et puis elle était anti, qu'on appelle ça, les bigotes. Hein. Ma mère était anti-bigote, hein. On ne pouvait pas les sentir, hein. Mais bon, elle disait toujours, moi, je ne veux pas être enterré comme une chienne, parce que vous savez, avant, les enterrements, si vous n'étiez pas enterré religieusement, hein, on vous prenait dans la caisse et puis on vous mettait tout, alors que maintenant, c'est beaucoup plus humanisme, il y a beaucoup d'humanisme. Hein. Bon, voilà, donc, moi, né en Algérie, foncé bien sûr, parce que mais espagnol, parce que chez moi, mon père parlait français, mon père parlait arabe, parce qu'il s'est élevé dans un quartier en Algérie où il y avait beaucoup de musulmans, et français, arabe et espagnol, mon père, par rapport à ma mère.
Et quand est-ce que vous arrivez du coup en Algérie ?
Moi, je suis né en Algérie en 1940. Moi, je suis né en Algérie, hein. J'étais à Oran, quartier très très populaire. D'ailleurs, les pieds noirs qui connaissent ça, même actuellement, là, la place Hoche à Oran, c'était une place très 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 populaire des ouvriers. Moi, mon quartier, au niveau des élections, mon quartier, la place Hoche, et le quartier où j'habitais, c'était, on l'appelait le petit Moscou. Parce que c'était les votes à fond pour la gauche. Mon père était responsable dans un... Comment je vous dis ça, comme le... Non, vous êtes trop jeune, les Nouvelles Galeries. Vous avez connu les Nouvelles Galeries à Brest ? Ah, non. Il s'occupait de compartiments à l'étage. C'était tout ce qui concernait les femmes, tous les habillements de femmes, mon père faisait ça. Ma mère était couturière brodeuse, comme ma grand-mère brodeuse, ma tante brodeuse. Et donc, moi, j'ai fait ma communion. J'étais dans un patronage religieux parce qu'il n'y avait que ça. Et mon père, qui pourtant n'était pas de ce côté-là, mais très tolérant. Mon père était très tolérant. Il a dit, moi, je préfère que tu sois là plutôt que dans la rue. Après, je suis allé à l'école secondaire, mais je ne me plaisais pas du tout. Je ne me plaisais pas du tout. Sixième, cinquième, je ne me plaisais pas du tout. Moi, l'école, ce n'était pas mon fort. Et puis, bon, ben, je me suis... Quand il fallait que je rentre en quatrième, et je savais que ça n'aurait pas été bien, Moi, je voulais quelque chose de technique. Donc, il y avait à Oran, en entreprise, c'était l'Arsenal. Il y avait l'Arsenal à Oran. Oran, c'était un sacré Arsenal qu'il y avait à Oran. Des scènes à Oran, c'était un sacré Arsenal. Il y avait l'aviation. Et puis, qu'est-ce que j'ai passé trois... À la poste. Et finalement, quand j'ai été reçu, ben, j'ai dit non, je vais à l'Arsenal. Pourquoi? Parce qu'il y avait... sur une semaine, on avait 2 jours d'atelier et 3 jours de classe. Mais moi, ça me plaisait beaucoup, hein, l'atelier. Et comme j'ai été reçu, je suis rentré à l'école des apprentis de l'Arsenal à Darbeida. Je suis rentré en octobre 1955. Et là, c'était 3 ans. Et je suis ressorti en 1958. Et là, donc, j'ai été reçu à mon DFT. Et je suis rentré à l'Arsenal d'Oran. Qui était au Ravin Blanc, ça s'appelait le Ravin Blanc. Et puis là, je suis rentré comme ouvrier tourneur. Mais quand vous sortez comme ça des apprentis, vous rentrez, vous allez au service d'accueil des nouveaux ouvriers, vous avez des chefs d'atelier qui viennent là. Et moi, il y a un chef d'atelier qui me dit, mais toi, avec tout ce que tu as fait là, tu es sorti deuxième de ta classe et premier en atelier, tu vas perdre ton temps en atelier, tu vas aller dans un bureau et tu vas préparer le travail. C'est ce que je fais maintenant, hein, mais en 1958, quand je suis sorti. Donc j'étais dans un bureau, j'ai pas touché un tour pendant tout cela, et j'ai été muté à Brest en 1965.
Donc vous faites combien de temps à Oran ?
Je fais de 1958 à 1955, à 1965. Là, j'étais dans les souterrains. Là, si vous voulez, là, c'est pas facile pour vous. Comment les gens, si vous voulez, nous avions une montagne, et c'était creusé. Toute la montagne était creusée avec des ateliers à l'intérieur pour les travaux, hein, que l'on faisait, la réparation des bateaux, tout ça. Et j'étais dans les souterrains, à Vérol 4, je vois toujours dans les souterrains, jusqu'à ce que, bon, ben, il fallait bien partir. Hein, la guerre tournait très, très, très mal. Ça tournait très, très mal. Hein, dans les rues d'Oran, c'était épouvantable. Donc j'ai mis mes parents à l'abri. Je les ai fait rentrer en métropole, et moi je suis resté en 1967, ma mutation, parce que je ne pouvais plus rester là-bas, il fallait partir. Et alors on peut partir plus tard, et puis bon, il a fallu choisir. Et si vous voulez, pendant la guerre d'Algérie, j'étais à la frontière marocaine dans les fusiliers marins, j'étais avec des métros, j'étais le seul pied noir sur 120 métropolitains où j'étais. Hein. Je peux vous dire que ce n'était pas facile, mais... Comme je dis, compliqué, mais avec mon caractère, ça s'est toujours très bien passé. Et j'étais avec un chef d'équipe qui était dans un établissement de la Défense nationale. Et moi, je pouvais aller dans n'importe quel... Je pouvais demander ma mutation dans n'importe quel établissement de la Défense nationale. Je pouvais, hein, comme je pouvais demander la Nouvelle-Calédonie, comme je pouvais demander. Alors, il me dit, où c'est que tu es? Je dis, ben, je suis à Oran, et puis il va falloir... Ben, viens ici, tu vas voir comment on va être bien, tu demandes la Rochelle, tu vas voir, toi, on va être bien. Je dis, oui, pourquoi pas? Moi, bon, je ne connais rien du tout, je ne connais pas. Et si vous voulez, ça m'est resté dans la tête, et que je pourquoi pas? Donc, j'avais demandé la Rochelle, j'avais demandé... qu'est-ce que j'avais demandé encore? Moi, je voulais pas des grands pôles. Toulon, Cherbourg, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais des petits établissements, hein, sachant très bien que... Est-ce que je pouvais dire toujours que j'étais dans un bureau? Ou alors non, c'était ma spécialité initiale qui comptait pour... Et puis bon, voilà que j'ai de la famille qui venait dans la région, à Morlaix, et ma mère, pour rien au monde, elle voulait se séparer de sa sœur. Alors, quand on m'a dit, ben, venir à Brest, ben, c'était pas pour moi, mais bon, moi je voulais la Nouvelle-Calédonie, alors, vous savez, les pieds noirs, les mamans, mon fils, tu te rends compte, la famille. Bon, ben, la famille, bon, tant pis, je suis venu à Brest. Et voilà, donc, on arrive à Brest, ça n'a pas été facile du tout. Pas du tout, parce que Je suis arrivé en 1965. C'était encore tout chaud, la guerre d'Algérie. Hein. C'était tout chaud. Alors, quand je suis arrivé dans le bureau, je me suis présenté. J'étais mal reçu. Je ne vous dirai pas les mots qu'on m'a dit parce que je ne veux pas les dire. J'étais très mal reçu. Puis j'ai dit, ben voilà, moi j'ai jamais touché un tour. Hein. Moi, ah, ben ici, c'est pas ici. Bon, bon ben, d'accord, hein, on m'a donné, tu vas aller prendre ton, en tant que caisson. Et en 1965, le caisson pour un tourneur, vous donnait une caisse métallique, comme ça, caisse métallique, avec tous vos outils dedans. Vous avez les grilles de, ce qu'on appelait ça les grilles de fatigue, c'était la tenue de. Pour le tour, quoi. Comme je dis, on était habillé comme Vidocq, hein, pareil, là, le truc. Mais il faut revenir en 1965, attention, hein. C'est ça, donc moi je suis arrivé, hein. Alors que, où j'étais, moi, dans les souterrains, nous avions des tenues unifugées, nous avions des chaussures de sécurité, savez, quand j'ai dit ça, tout le monde s'est foutu de ma gueule, hein. Alors bon, donc il me donne la question où je vais, et puis, tu passes au magasin, on va te donner tout ça, donc d'accord. J'arrive au magasin. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est quand il m'a donné mon caisson. Et il me met une paire de sabots sur le, à côté. Je regarde, il me dit, tout oublie tes... Je dis, mais qu'est-ce que faire avec les sabots? Ben, c'était des chaussures de sécurité. Quoi? Je me dis, mais j'étais complètement... Alors bien sûr, j'en ai pris plein la gueule. Ouais, quand tu te crois, toi, ici, on suit pas le Bernous. Oh, ça va, c'est bon. Ouais. Alors en plus, bon, mais tu prends les sabots. Et je dis, mais moi, j'ai jamais mis ça. Ouais. Et oui, c'est vrai que vous voyez, même à l'heure actuelle, les gens qui vont dans les jardins, ils mettent des sabots. Bien sûr, pour... Mais moi, ça m'est sorti de la tête que j'allais mettre des sabots pour aller au boulot. Oui, et de toute façon, comme tu peux pas, tu sais, c'est du bois, hein, et comme tu peux pas glisser, hein, tu vas mettre des bandes en caoutchouc. Ah bon? Je dis oui. Ah ben tu vas voir l'autre là-bas, il va te dire comment faire, hein, et puis n'oublie pas. Hein. Ça voulait dire, on avait des barres tout autour, au Carpan. Moi j'étais au Capucin, moi. Hein. Moi je suis arrivé au Capucin, hein. Au Capucin de 1965, hein, c'est pas les Capucins de maintenant, c'est le Club Med, hein, je peux vous dire. Hein. Bon, donc, nous avions des bars, des petits bars qui étaient tout autour. Et les gens, à peine ils finissaient à midi et demi, hop, ils allaient boire de suite leur coup. Alors bien sûr, quand vous êtes un nouveau arrivant, ben, vous payez votre coup. Hein. Alors ça veut dire descendre au bar, vous voyez. Mais il n'y avait rien de... C'était la coutume, il n'y avait rien de... Mais c'était comme ça. Bon, alors, je vais voir le type, je lui dis, tiens, il paraît que... Ah ouais, c'est toi le nouvel arrivant, là. Tu me donnes ça, tu connais le tarif. C'est pas pour moi, c'est pas un problème, à moi qui boit que de l'eau, en plus, bon, c'est pas un problème. Le contexte était là, hein. Il faut comprendre que le contexte, c'est la guerre d'Algérie. Et comme j'ai dit à mes enfants, hein, qui connaissent ce que je peux leur raconter, l'histoire des pieds noirs, j'ai dit, tu sais, les pieds noirs, l'histoire dit qu'on a été des colonialistes, qu'on a été des racistes, qu'on a été des profiteurs et tout. Et j'ai dit, l'histoire, elle est là. Donc, c'est comme ça. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de vous soumettre ou de l'expliquer. Mais moi, oui, moi, je me défends. Parce que moi, ma famille, si c'est vrai qu'il y a eu... Parce que moi, il y en a qui me disent, « Ouais, t'as vu, toi, ouais, vous, les pieds noirs, vous avez fait... » Je dis, « Écoute-moi, toi. Et si ta famille a donné du beurre aux Allemands, je te traitais de collabo. » Bon, alors, hop, le type... Vous n'avez pas besoin de vous disputer avec ça, le type, il ferme sa gueule, il s'en va, hein, c'est plus la peine. Donc, contexte très, très, très dur. J'ai fait 5 ans aux machines. Moi, quand je suis arrivé aux machines, ben, j'avais à la sortie des arpètes, j'avais pas touché un tour. Vous avez une tête comme ça de théorie, hein, mais vous arrivez aux machines, hein. La manière de travailler, mais moi, heureusement que j'ai quand même eu des tourneurs qui étaient là et qu'ils ont pu me donner quelques ficelles. Hein. Vous arrivez, on vous envoie, vous avez deux caisses comme ça de gronde. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, ça, c'est des brides. Ah, des brides, ah bon? Vous donnez des croquis, parce que nous, les tourneurs, nous avions que des croquis. La pièce, on ne savait pas. On ne savait pas où ça allait. Donc, ben, il fallait vous en tenir. Hein. Et nous, quand vous êtes machiniste, hein, vous travaillez au dixième, au centième, c'est pas au centimètre. Hein. Bon, ben alors, bon, on m'a donné ça, alors j'ai fait comme j'ai pu, bien sûr. Et donc, et là, on travaillait à la prime. Il y avait des astuces pour. Enfin, bon, je ne vais pas vous raconter tout ça, mais en fait, disons qu'au Capucin, les machinistes ont travaillé à la prime.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez ça?
Ah ben, c'est-à-dire que si vous aviez, par exemple, on vous donnait une fiche, vous aviez une fiche pour faire une pièce, hein, je sais pas moi, un axe, on vous disait, vous aviez 4 heures pour faire l'axe, mais il fallait marquer 0,7 heures du temps pour gagner la prime.
D'accord.
Hein, là, je ne me rappelle plus combien c'était. Pour 4 heures, ben, il fallait faire 3 heures, je crois, en 3 heures, faire le temps. Bon, moi je n'arrivais pas. C'est pas la peine, je n'arrivais pas. Alors, bon. Ah oui, il y avait beaucoup de pieds noirs, hein, de rang. Beaucoup, qui ne sont pas restés longtemps, mais il y en a même encore qui sont là. Hein. Ah oui, il y avait des pieds noirs de rang qui sont venus à l'arsenal de Brest. Hein. Ah,
parce
oui.
Parce qu'ils ont fermé l'arsenal de Rouen avec la guerre quand vous êtes parti.
Après, non, il a été fermé qu'en 1967, je crois qu'ils l'ont fermé. Alors, est-ce qu'il est... Oui, il est fermé, puisque l'indépendance était en 62. Moi, je suis parti en 65, et je crois qu'il restait deux ans pour faire le déménagement après. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait dedans? Moi, je ne sais rien, je ne sais pas. J'ai quand même été le secrétaire général de l'association des pieds noirs de Brest. Hein. Vous le verrez pendant plus de 20 ans. Hein. Là, maintenant, c'est fini. Ben, vous savez, nous, les pieds noirs, il n'y a plus personne. Hein. Après, nous, c'est fini. Hein. Moi, mes enfants, ils ne prennent pas le flambeau. Qu'est-ce qu'ils savent de l'Algérie? Qu'est-ce qu'ils savent? Ils ne savent pas grand-chose. Hein. Donc là, je me plaisais pas du tout. Je suis retourné à l'école. Je me suis marié. Et... si vous voulez, à l'arsenal, vous avez, on est commandé par des ingénieurs, hein. Ils sont tous galonnés, ils sont, et on appelle ça l'ordre du directeur. Le directeur sort des ordres, hein, je sais pas, des concours, tout ça. Il y a un copain qui me dit, tiens, t'as vu, il y a un ordre du directeur qui demande de poser des candidatures pour être pour préparateur de travail. Et il faut avoir au moins 5 ans de travail. Je dis, bon, ben, j'ai plus de 5 ans d'activité, depuis 1958, hein, il n'y a pas de problème. Et c'était en 1971, j'ai quitté en 70, oui, en 1970. Et donc je mets mon nom, et il vient le chef de travaux, là, il me dit, vous avez mis votre nom pour... Oui. « Ah non, vous n'êtes pas... Le chef de chantier ne veut pas... Pourquoi ?» Il dit « Parce que c'est lui qui désigne ses candidats. » Je n'ai aucun droit, c'est à l'ordre du directeur. Je dis « Même un charpentier, s'il veut mettre son nom pour être préparateur charpentier ?» Je dis « Non, moi je mets ton... Non, il n'est pas question. » Je dis « Enfin, c'est un monde, je vais à l'école, moi je ne veux plus rester autour, je veux mettre mon nom sur une directrice. » Je dis « Non, je ne veux pas, ben, je vais le voir. » C'était... Non, il me dit « Non. » Je dis « Bon, ben, écoutez, ben, je mets les syndicats dans le coup. Hein. Il n'est pas question que je me laisse faire. Moi, je vais à l'école. Hein. Il y a un ordre du directeur. Si ça avait été que pour vous seulement, d'accord. Mais c'est un ordre du directeur. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vais pas... Et puis bon, alors il me dit ben, « Je suis obligé de te laisser, mais je te laisse passer parce que je sais que tu vas être échoué. » Bon, on verra bien. Et on était 5 à se présenter pour où j'étais, moi, comme machiniste. On se présente 5, je suis reçu premier. Alors bon, je suis reçu premier, alors qu'est-ce qu'il allait faire? Il me dit « Bon, ben voilà, tu es reçu, il n'est pas question que tu viennes là, mais tu choisiras, ou la machine ou ailleurs. » Alors je lui dis « Bon, ben, je suis reçu, je ne sais pas où je vais, mais je sais ce que je quitte, alors je m'en vais. » Et là, je suis parti au chantier réparation. Mais j'étais reçu pour rentrer à la formation de préparateur. Mais je n'étais pas reçu à l'examen. Donc il fallait... Et là, au lieu de me donner un examen de machiniste, on m'a donné un examen de réparation en bord. Je n'ai jamais vu de ma vie. Alors, le chef de bureau que j'avais, il m'a dit ne t'inquiète pas. Je vais te donner une opération que tu as fait sur un bateau. Et tu vas faire ça à l'examen. Tu vas faire ça à l'examen. Oh, d'accord. Effectivement, je me prépare tout au poil, il me dit pas. Manque de peau, il est muté. Celui qui prend sa place, c'était un ingénieur bord. Il me donne la mise à l'eau du sous-marin. Ça me rappelle toute ma vie. La mise à l'eau du sous-marin remorqué. Je n'avais même pas vu en photo. J'ai échoué carrément. Je suis repassé l'année d'après. Et là, on m'a donné une opération qui était beaucoup plus intéressante. Donc là, j'ai été reçu. Mais manque de peau. Les préparateurs reçus, il y a eu un blocage. On n'est pas passé de suite. Parce que là, si vous voulez, moi, de cinquième catégorie, vous passez en T, technicien de fabrication. Là c'est autre chose. Hein. Il y a le T devant, mais ça change beaucoup. Hein. Donc, bloqué. J'ai été bloqué de 71 jusqu'en 1974. Pourquoi 74? Parce que Pompidou est décédé, c'est Giscard d'Estaing qui a pris sa place. Donc il fallait satisfaire toutes les demandes de partout. Et donc moi je suis un technicien de Giscard d'Estaing. Ce qu'il y a de malheureux, c'est que moi, ne connaissant pas les bords du tout, ben, quelquefois il fallait que je demande à, tiens, comment ça se passe là. Par contre, ce qu'il y avait de bien, c'est que comme je suis ancien machiniste, quand il y avait des pièces à confectionner qui allaient sur les bateaux, ben là, je pouvais rendre beaucoup de services. Parce que là, j'allais aux machines. Autant j'avais été mal reçu avec certains, ben après ça allait mieux. Je leur disais, hey, le clown, il a changé de barrière maintenant. Hein. Mais moi, si vous voulez, j'ai quand même réussi. Je ne me plaisais pas du tout, hein, mais j'ai quand même réussi à rester avec de très bons contacts aux Capucins. Moi, j'avais des copains qui étaient toujours à la machine. J'avais des copains où j'étais obligé de passer par eux pour des délais, pour des commandes. Ça se passait toujours bien. Moi, c'est que les chefs. Hein. Les chefs, je ne voulais plus. Et à chaque fois que j'avais l'occasion d'en bombarder un, je ne le loupais pas. Hein. Ah, ça, je peux vous dire, hein, quand je venais leur dire. Hein. Si vous voulez, nous dans les bords, il faut qu'on fasse attention. On les fait passer en cale sèche, si vous voulez. Et pour les faire passer en cale sèche, ben, il faut faire attention que ce qu'on dit, s'il y a des orifices, qu'il faut tous les boucher avant de remettre le bateau. Donc il y a des pièces à faire confectionner, tout ça, vous voyez. Donc moi, les copains venaient me voir et me disaient, tu peux t'occuper de ça? Il y a pas... Oui, pas de problème. Et j'allais aux machines, il faut les faire. Alors j'allais voir le chef d'équipe. Je disais, tiens, c'est toi qui t'occupes de tout ça. Tu peux me dire, là, parce que moi, j'ai un planning. Alors, j'étais provocateur, hein. Ah, j'étais provocateur, hein. Ils m'ont emmerdé pendant 5 ans, je peux vous dire que je ne les ai pas loupés, hein. Je disais, tu vois, j'ai un planning ici, là, de là à là, et j'ai 2 semaines en cale sèche. Est-ce que tu peux me dire, toi, combien de temps tu... Ah bon? Je dis, ben, oh. Et je te demande, tu peux pas, tu me dis, hein, moi je m'en fous, moi tu me dis non, les machines ne peuvent pas faire ça. Moi je vais noter aux conférences, ils vont dire, aux machines on ne peut pas faire ça. À partir de là, ils vont venir t'envoyer, ils vont te dire pourquoi. Et combien de fois tu m'as demandé, hein, et voilà, t'es le... Je dis, ben alors, je me régalais, tu vois, là, et par contre avec d'autres, non, d'autres, j'étais gentil, hein. Donc moi, même en étant handicapé, parce que j'étais très handicapé à bord, hein, je ne connaissais pas du tout les bateaux, ça consistait que le bateau rentre en carénage, ce qu'on appelle, il rentre en hyper. Bon, ben, je vais voir qu'est-ce qu'il a comme réparation. Si c'est la ligne d'arbre, bon, moi, je vais voir la ligne d'arbre, je vais voir avec le chef d'équipe, hein. Moi, c'est pas moi qui vais la démonter, c'est pas moi, mais il va peut-être y avoir des pièces à confectionner. Alors on va venir me voir, on va me dire, voilà, tu peux pas sortir ce plan, ou alors est-ce que tu peux pas me faire le croquis de cette pièce, tout ça. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, je sais pas. Moi c'était ce qui concerne la mécanique. Moi, tout ce qui est les tuyaux, non, chaudronnier, c'était pas moi. L'électricité, c'était pas moi. Les moteurs, oui, bien que je ne connaissais rien du tout aux moteurs, c'est pas moi qui allais les réparer. Mais bon, on venait me voir, on me dit, tiens, tu peux commander telle pièce, tu peux commander les flexibles, par exemple, pour les moteurs. Voilà, moi, c'était ce qui était mécanique. Mais très, 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 très handicapé. Heureusement que j'avais des bons copains quand même avec qui je pouvais m'arranger. Hein. Sinon, mais par contre, à bord, moi, je ne me suis plus... Hein. D'abord, cette liberté d'abord. Oh, la liberté. J'allais à bord, j'allais aux machines, j'allais partout. Alors que nous, tonneurs sur métaux, hein, ben on a, moi, mon tour, il faisait 1,50 m. 1,50 m de large, ben de là, c'est tout. Hein. Moi, je ne peux pas. Moi, c'est pas vrai. Je ne vais pas me plaindre de ma vie professionnelle. C'est pas vrai. Ça a été dur. Très dur au début. Hein. Mais bon, je me suis fait. Hein. Je suis, moi, quand je suis arrivé à l'Arsenal de Brest, et je vois comment je suis parti... Ben, vous savez qui c'est qui connaît pas Max Onich à l'Arsenal de Brest, hein, je peux vous dire. Hein. Moi, quand je montais sur une tribune là, devant 1000 personnes, moi j'avais rien à foutre. Hein, quand j'avais quelque chose à dire, je le disais. Hein. Et je suis parti en 1995. Je suis parti à 55 ans.
La Grande Maison, une émission de Martin, Cause et Léouette, à retrouver chaque semaine sur Radio U.
On les retrouve en raccourci dans nos petites amours d'un jour. Toutes les joies, tous les soucis, des amours qui durent toujours. C'est là le sort de la Marine et de toutes nos petites chéries. On accoste vite un bec pour nos baisers le corps avec. Et les joies et les bouderies, les fâcheries, les bons retours. Il y a tout ça en raccourci.